Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Bruno Barada, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre. Et la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. C'est le troisième épisode de notre série consacrée au Parlement européen. À un mois des élections, nous avons parlé hier des influences et ingérences étrangères au sein de l'hémicycle. Demain, nous tâcherons de mesurer l'influence des députés européens en matière de défense des droits fondamentaux. Aujourd'hui, l'ambition démocratique du Parlement, être la voix du peuple.
Today, the European Parliament has become the only...
Aujourd'hui, le Parlement européen est devenu le seul Parlement au monde élu au suffrage direct, tout en regroupant plusieurs langues, plusieurs partis. Il est le seul Parlement transnational. Les 705 eurodéputés directement élus sont l'expression de l'opinion publique européenne.
Le Parlement a sûrement beaucoup de compétences. Il est co-législateur sur beaucoup de matières. Nous voulons plus de pouvoir d'initiative, parce que, comme tous les parlements nationaux, il faut non seulement qu'il y ait la possibilité de travailler sur les propositions de la Commission, mais qu'il y ait aussi la possibilité pour nous, Parlement, d'être à l'initiative de sujets sur lesquels discuter.
Vous avez cette expression Parlement européen for the spirit of compromise. Moi, je m'en fous du spirit of compromise. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a un texte qui fonctionne. Et c'est ça qu'il faudra garder en tête et comme seule boussole au moment des négociations, parce que je connais déjà trop bien les stratégies de la Commission et du Conseil pour nous faire céder.
On n'appelle pas ça le Parlement, on appelle ça le blablament, disait l'un des personnages des monstres de Dino Risi en passant devant la Chambre des députés à Rome. Alors qu'on le situe à Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg, le Parlement européen n'a, semble-t-il, pas grande légitimité non plus auprès des citoyens, puisque sur 450 millions d'électeurs appelés à voter, jamais plus d'un sur deux ne prend la peine de se déplacer. Pour expliquer cette faible participation aux élections européennes, on entend souvent que le Parlement européen ne servirait à rien, notamment face aux deux autres institutions que sont le Conseil et la Commission. Dans les premières heures de la construction européenne, la prise en compte de la voix du peuple semblait en effet secondaire. Il faut reconnaître en revanche qu'en 70 ans, les pouvoirs du Parlement européen se sont renforcés jusqu'à un rôle de co-législateur avec le Conseil. Cette conquête d'autonomie et de pouvoir est le fruit d'un combat idéologique entre les tenants d'un Parlement plus fort et d'autres qui veulent défendre la primauté des parlements nationaux. Alors comment le Parlement européen s'est-il renforcé au cours du temps ? Pourquoi n'a-t-il cependant toujours pas les prérogatives d'un Parlement traditionnel ? Comment penser la représentation du ou des peuples européens ? Nous en parlons aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour Laurent Varlouzet.
Bonjour Julien Dicon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire à Sorbonne Université, auteur d'Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance, paru aux éditions du CNRS, et une histoire de la construction européenne depuis 1945, paru à La Découverte. Bonjour Guillaume Sacriste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, bienvenue, vous êtes maître de conférence à Paris 1, vous dirigez le Master Politique Publique Européenne et vous faites paraître dans les jours qui viennent le Parlement européen contre la démocratie aux presses de Sciences Po. Il y aura entre vous très certainement des nuances et peut-être même du débat, mais d'abord un récit historique de la façon dont ce Parlement européen s'est construit. Est-ce que Laurent Varlouzet, le terme et l'idée même de Parlement européen a été ne serait-ce qu'évoqué par les pères fondateurs de l'Europe ?
Alors oui, en fait, il y a deux sources hein, dans les origines du Parlement européen. Il y a le mouvement fédéraliste qui, effectivement, se réunit à La Haye, veut créer un Parlement européen. Et il y a une première assemblée qui est créée avec le Conseil de l'Europe en 49, qui existe toujours, mais qui est un échec. Donc elle a peu de pouvoir. Donc ce qui fait que ceux qui créent les ancêtres de notre Union européenne, de la communauté européenne, Jean Monnet, Robert Schuman, qui lance la déclaration Schuman, dont on va fêter l'anniversaire demain le 9 mai, c'est pour ça que c'est la fête de l'Europe, inventent un modèle où un Parlement existe, ça s'appelle l'Assemblée consultative, c'était évoqué par Jean Monnet dès juin 50, mais elle est secondaire parce que déjà il faut penser qu'à l'époque c'était une idée complètement révolutionnaire. Il n'y avait jamais eu de Parlement comme ça élu directement au suffrage universel direct. Alors d'ailleurs c'était loin d'être le cas à l'époque, puisque il y avait juste eu cette Assemblée du Conseil de l'Europe qui était inefficace et qui était constituée de délégués des parlementaires nationaux. Donc l'idée c'était de refaire la même chose, mais surtout de mettre l'accent sur un exécutif supranational, c'est ça l'innovation qu'on a dans nos communautés et dans l'Union européenne, qui soit capable de gérer au jour le jour les dossiers de l'époque, c'était le prix du charbon vendu aux sidérurgistes allemands. Donc si vous voulez, c'est pas le rôle d'un parlement.
On parlait de communautés européennes de charbon et d'acier.
Voilà, et donc la priorité c'était d'abord de faire un exécutif efficace sous le contrôle des États. Donc c'est pour ça que c'est démocratique. Je suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que la prise en compte de la voix du peuple n'était pas effective. Il y avait une prise en compte de la voix du peuple par le biais des gouvernements.
Exactement comme ça se faisait. J'ai dit ça.
Oui, vous avez dit ça au début. Mais c'est une idée qu'on
le blablament,
beaucoup,
c'est
et peut-être que Guillaume la défendra aussi. Pour moi, c'est aussi démocratique que toutes les politiques de l'époque étaient menées, planification, reconstruction, aménagement du territoire, il y avait le contrôle d'un gouvernement, et voilà, c'était démocratique.
Mais c'est vrai, Guillaume Sacriste, qu'à l'époque des pères fondateurs, dans la déclaration de Schuman du 9 mai 1950, il n'est pas question de parlement, et vous écrivez dans le livre qui va paraître dans les prochains jours qu'il ne s'agissait ni d'un hasard, ni d'un oubli, et que l'idée était même de s'affranchir d'un contrôle parlementaire.
Oui, il me semble que effectivement dans le plan Schuman, on parle de cette haute autorité qui est un exécutif, et tout le projet de l'équipe Monnet en fait qui rédige ce premier plan Schuman, c'est d'essayer de construire un nouveau type de politique. Et cette politique, c'est une politique qui doit se construire essentiellement sur une légitimité scientifique, technique, technocratique.
Des experts.
Avec l'idée de s'affranchir de toute idéologie. Hein. On est dans un moment, les années 50, où il y a une tentative d'amoindrir tout ce qui pourrait paraître politique, passionnelle, et donc l'idée c'est de construire enfin une politique qui se fonde sur la science. Et pour ça, il faut s'affranchir du Parlement. Et ces gens du plan qui sont autour de Monnet vont décider, dans cette déclaration Schuman, de construire un nouveau modèle sans Parlement. Et en fait, au lendemain de la déclaration Schuman, tout le monde va s'en rendre compte parce qu'on est dans un moment plutôt de parlementarisme triomphant après-guerre, et toutes les délégations du Benelux, de l'Allemagne et sans doute également de l'Angleterre vont s'interroger en disant mais enfin vous ne pensez pas confier des droits souverains à des gens indépendants, à cette haute autorité, sans qu'il n'y ait de contrôle parlementaire. Donc les Hollandais, les Belges, les Allemands interrogent Monnet sur cette question. Et Monnet va assez rapidement se rendre compte que son coup de force ne sera pas possible. Et va, au début des négociations traité de Paris, indiquer que peut-être on pourrait réintroduire quelque chose qui ressemble à une assemblée de parlementaires, si tout le monde le souhaite. Et c'est donc contre le projet Monnet initial, Monnet se rendant compte que son coup de force ne fonctionnera pas, qu'un parlement est créé, mais un parlement est créé, qu'il appelle d'ailleurs comité initialement, hein, parce que justement, il faut éviter le Parlement. Un Parlement est créé, mais avec des pouvoirs extrêmement restreints. Donc on a une naissance d'un Parlement, mais qui n'a aucun des pouvoirs d'un Parlement standard.
C'est en ça, Laurent Varlouzet, que j'ai en effet dit en introduction que la voix du peuple semblait secondaire dans les tout premiers temps de la construction européenne. Guillaume Sacriste disait que à l'époque, les pères fondateurs pensaient qu'un Parlement aurait remis de la politique et des intérêts là où il s'agissait de mettre de la concorde et de la paix. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. Ce comité de la CECA, de la Communauté économique du charbon et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui deviendra plus tard Assemblée parlementaire, est constitué de 78 députés. Comment est-ce qu'ils sont choisis, désignés ?
Alors oui, donc effectivement, Jean Monnet, dans la déclaration Schuman, n'avait pas prévu de parlement. Bon, dès juin 50, c'est intégré de toute façon dans les négociations de lui-même. Donc est-ce que c'est contradictoire, est-ce que c'est complémentaire? Je ne sais pas, mais c'est vrai que sa priorité, c'était de créer des institutions efficaces. Il faut voir que c'était ça qui était nouveau, en fait. Hein. À l'époque, ça n'avait jamais été fait, un parlement, même constitué de délégués nationaux, qui était efficace. Il y avait juste celui du Conseil de l'Europe. Donc ce qui peut paraître comme une évidence, c'est ce que Guillaume Sacris présente comme une évidence en 50, bon, ne l'était pas. C'était quand même quelque chose. On était vraiment dans l'inconnu la plus totale.
Et donc, mais ça l'était manifestement davantage pour les Allemands, les Néerlandais, le Benelux en général, et les Anglais que pour la France en tout cas.
Alors les Anglais n'ont pas participé aux négociations, c'était les Britanniques. Et d'autre part, les Benelux avaient surtout peur en fait d'un condominium franco-allemand et d'une haute autorité trop puissante. Et donc ils ont aussi demandé à ce qu'il y ait un conseil des États qui soit important. Donc voilà, on a cet équilibre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, en fait, Monnet était le commissaire au plan, et pour lui, le commissariat au plan était démocratique parce que, un, il y avait la légitimité des États, donc des gouvernements qu'il avait placés là. C'était De Gaulle qui l'avait nommé commissaire au plan. Et deux, il y avait une légitimité de la société civile qu'on a un peu oubliée. C'est-à-dire que Monnet l'explique, et c'est une citation d'ailleurs qu'Aliénor Ballanger, qui va parler tout à l'heure dans l'émission, reprend dans son livre. Il dit voilà, le plan est démocratique parce qu'il résulte de la consultation de centaines de syndicalistes, de patrons, de fonctionnaires. Et donc c'est une forme de démocratie par organisation de la société civile, en fait, plus que par le vote direct. Le vote direct doit intervenir juste une fois de temps en temps. Les gouvernements sont élus, ils nomment les responsables, et ensuite ces responsables travaillent au jour le jour en consultant donc la société civile. C'était ça, en fait. C'est une conception de la démocratie vraiment organisée.
Mais parmi ces 78 députés que compte le comité de la CECA, si je comprends bien Guillaume Sacriste, tous viennent eux-mêmes, sont députés dans leurs parlements nationaux. C'est ça, ils exercent une forme de double mandat ?
C'est ça exactement. Ce sont des délégués des parlements nationaux, donc qui sont élus dans chaque parlement. Et ce sont donc des parlementaires. Hein. La grande différence, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent, on a l'idée donc de reproduire le modèle du plan au sein de cet embryon de communauté économique européenne. Et donc l'idée, c'est justement de court-circuiter la dimension politique, partisane, idéologique portée par les parlementaires, et de passer, comme l'a dit Laurent, par la société civile organisée, par des syndicalistes considérés comme eux légitimes, techniciens et donc très largement dépolitisés.
Comme en France d'ailleurs, à l'époque se dessine la Ve République, il y a quelque chose de commun, une vision française dans la façon dont tout ça est construit au départ ?
Moi, je le crois assez, oui. C'est vraiment 57 pour le traité de Rome, 58 pour la Ve République. On a même des hommes communs, par exemple le doyen Vedel, doyen de la faculté de droit de Paris, qu'on retrouve à la fois négociant le traité de Rome, enfin comme expert juridique, et au cœur du début de la Ve République. Et donc, on a l'idée, effectivement, d'une émancipation des hauts fonctionnaires, d'une politique technique experte contre la légitimité de l'élection qui semble passer de mode et qui a amené à la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut construire une autre manière de faire de la politique. Certaine manière, l'Europe sera un laboratoire de cette nouvelle manière de faire de la politique sans Parlement.
Même si ceux qui s'opposent à cette vision-là, disons fonctionnaliste du Parlement, peuvent l'exprimer, puisque dans ce comité devenu Assemblée parlementaire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier dans les années 50, siège par exemple Altiero Spinelli, qui deviendra dans les années 80 le chef de file des fédéralistes.
Monsieur le Président, je veux essayer très brièvement d'expliquer par une parabole la signification du vote positif que je vais donner. Vous connaissez tous le petit roman de Hemingway où il parle d'un vieux pêcheur qui pêche le plus grand poisson de sa vie et puis il tâche de le porter vers son port, mais les requins peu à peu le dévorent de manière qu'il arrive avec une arête seulement. Alors, Monsieur le Président, le Parlement, par le vote qu'il va donner dans quelques minutes, aura pris le plus grand poisson de sa vie. Et il doit le porter encore dans le port. Mais faisons bien attention, parce que des requins seront à tout moment là pour tâcher de le dévorer. Tâchons de ne pas arriver seulement avec une arête.
Altiero Spinelli, le fédéraliste en chef ici sur l'acte unique. On est dans les années 80. Altiero Spinelli s'exprime à ce moment-là à ce qui s'appelle déjà le Parlement européen. Le poisson, c'est quoi, Laurent Varlouzet? Le poisson dont parle Spinelli, c'est la construction européenne?
Non, mais je crois que vous avez, c'est assez émouvant d'entendre Altiero Spinelli, avec cette métaphore du vieux homme et la mer. Et ça fait bien le lien, effectivement, avec ce que vous disiez avec Guillaume Satry. C'est-à-dire que il y a une vision un peu technocratique de la construction européenne, mais aussi de l'administration en générale française, qui est à la fois parisienne et bruxelloise. Et donc la reconstruction, l'aménagement du territoire, c'est aussi technocratique. On n'a pas demandé aux gens où on voulait construire les villes nouvelles. Donc, si vous voulez, il y a une vision française, effectivement, qui n'est pas antidémocratique, mais qui considère qu'effectivement, il ne faut pas s'embarrasser de votes trop fréquents. Il faut déléguer à des gens qui connaissent la technique et qui vont l'appliquer. Et cette vision, donc, ensuite, elle est passée à Bruxelles, soit dans une vision intergouvernementale à la De Gaulle, voilà, la commission c'est juste des experts, le Parlement ne sert à rien, il n'est pas légitime, soit dans une vision de hauts fonctionnaires, voilà, qui mettent l'accent sur le rôle de la commission et avec un rôle du Parlement assez faible lié à la... il y avait un pouvoir de censure quand même en 52, mais bon, ils se réunissaient qu'une fois par semaine. Et il y a un troisième groupe qui sont les fédéralistes qui, eux, veulent vraiment créer un Parlement parce qu'ils considèrent qu'il y a un peuple européen qui doit élire directement un Parlement européen. Et ce courant est peu représenté en France, enfin, il est représenté un petit peu au centre, hein, centre-droit, centre-gauche, mais il n'a jamais été vraiment au pouvoir, et c'est pour ça que la plupart des gouvernements ont toujours été réticents sur le renforcement du Parlement européen, y compris dans les années 80, François Mitterrand, après Jacques Chirac. C'est toujours d'autres pays qui avaient une tradition parlementaire plus forte qui ont voulu renforcer le rôle du Parlement européen.
C'est vrai que eux, les fédéralistes, ont peu de rôle en France, mais c'est quand même en France, Guillaume Sacriste, qu'ils se réunissent, et notamment à Strasbourg, dans un restaurant, le restaurant du Crocodile, où ils se réunissent pour parler État fédéral européen autour d'une bonne choucroute. On les décrit souvent comme une nébuleuse, ces fédéralistes. Qui étaient-ils? Et nous rappeler aussi l'histoire de cet Altiero Spinelli qui a porté cette vision-là de l'Europe.
Oui, Altiero Spinelli, c'est vraiment la grande figure des fédéralistes. Pour le dire une première fois, quand même, il faut bien comprendre qu'on est du coup dans un courant qui est quasiment opposé terme à terme par rapport à l'équipe Jean Monnet. Donc c'est vraiment deux manières, comme le rappelait Laurent Varlouzet, de concevoir et de construire l'Europe démocratique. Altiero Spinelli, c'est quelqu'un qui est un militant communiste pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va se trouver enfermé par le pouvoir fasciste dans une petite île italienne qui s'appelle Ventotene.
C'est là qu'il écrit le manifeste de Ventotene, d'ailleurs, avec Ernesto Rossi, en 41.
C'est là qu'il écrit ce manifeste qui va devenir la bible de tous les courants fédéralistes européens, jusqu'à aujourd'hui, en vérité, puisqu'il existe aujourd'hui un groupe, notamment constitué de parlementaires européens, très puissants, fédéralistes, au cœur du Parlement européen, et qui fait de ce manifeste, encore aujourd'hui, donc, le point de départ de leur action. Donc, ce Spinelli, il se trouve en prison avec Ernesto Rossi, un intellectuel, professeur d'économie. Ils écrivent ce manifeste très marxiste, finalement, très marxiste, et qui, au cœur de la réflexion de ce manifeste, c'est de dire, bah, finalement, le capitalisme a créé la guerre. La guerre va être une opportunité pour nous parce que les États ont été très largement fragilisés par le conflit. Il faut profiter de ce moment, il y a un momentum, pour essayer de construire une Europe fédérale, un État fédéral européen fondé sur la base d'une constituante européenne. Donc une Europe qui se fasse qui pourrait se faire par la base, par le peuple. Dans ce cadre, le Parlement européen, un Parlement européen serait l'institution première de ce futur État fédéral européen. Cet État fédéral européen, finalement, se faisant sur une base constitutionnelle qui ressemblerait à une grande Allemagne fédérale, pour le dire simplement.
Une constitution commune, c'est ce qu'il réclame, qui marquerait la naissance d'un peuple, Laurent Varlouzet, ou des peuples européens. C'est-à-dire, est-ce que à l'époque, il considère qu'il y a un seul peuple européen, ou ils n'en sont pas là, avec tous les débats qu'on imagine que ça peut créer avec les gaullistes, par exemple, en France.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une grande Allemagne ou une grande Suisse, en fait, avec un maelstrom de peuples différents, unis dans la diversité. C'est le motto de l'Union européenne. Donc, à la fois un peuple européen composé de peuples nationaux. Il n'y a jamais eu véritablement de conclusion sur cette question insoluble. Et l'extrait, je pense, de Spinelli, il a daté de 84. Hein, 84, Spinelli se disait, voilà, on est à un moment où la construction européenne a bien progressé. Il faut maintenant avoir le Parlement commencer à être élu au suffrage universel depuis 79. Direct, suffrage universel direct. Simone Veil avait été élu président du Parlement. Mais bon, le Parlement a encore peu de pouvoir. Et Spinelli se dit, voilà, maintenant, on va créer le marché unique. Il faut que les peuples soient représentés plus directement que par l'intermédiaire de leur gouvernement, d'où le projet de traité constitutionnel qui porte en 84, qui au départ est un échec, d'où cette métaphore du vieux homme et la mer, enfin, qui l'avait anticipé, mais qui ensuite influence le traité de Maastricht quand même de 91-92, qui donne le pouvoir de codécision au Parlement.
Et en effet, 1984, ça fait déjà 5 ans que le Parlement est élu au suffrage universel direct, pourtant prévu dès 1957 par le traité de Rome.
Une fois de plus, les membres du Parlement européen arrivent pour une session. Ils viennent des 9 États membres de la Communauté européenne. Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni. Jusqu'à présent, ils ont été désignés par les différents parlements nationaux.
En juin prochain, il appartiendra aux citoyens européens de choisir eux-mêmes les hommes et les femmes qui les représenteront. Ils donneront ainsi le jour à la première assemblée plurinationale issue du suffrage universel.
Est-ce que c'est à partir de là, Laurent Varlouzet, 1979, première élection au suffrage universel direct, que tout s'accélère? Est-ce que c'est là que le Parlement européen acquiert une forme de légitimité démocratique qui permet d'accroître au fur et à mesure ses pouvoirs?
Oui et non, disons qu'il y a eu toujours un hiatus, c'est-à-dire que le Parlement a existé, alors le suffrage universel direct était prévu même dès le traité CECA, a été envisagé, mais il a été élu au suffrage universel direct avant d'avoir vraiment des pouvoirs significatifs, ce qui explique peut-être que les électeurs se soient sentis un petit peu floués au bout d'un moment, puisque c'est 79 et vous voyez, vous avez passé après l'extrait de Spinelli de 84 qui dit, bon ben voilà, maintenant il faut quand même doter ce Parlement de pouvoir. Et quand on voit les archives du Parlement, moi j'avais étudié un petit peu sur les années 70-80, au départ, c'est un Parlement quand même assez amateur. La plupart de leurs membres sont des députés français. Certains sont maires. Bon, ils viennent, je sais pas s'ils viennent très très souvent.
Il y a triple mandat, c'est ça à l'époque.
Voilà. Et à tel point que quand Jacques Delors lance le marché unique, qui là va renforcer les pouvoirs du Parlement, vous avez beaucoup de papiers qui disent, les chefs de groupe disent, bon, attendez, maintenant il faut être là, parce que maintenant on va vraiment avoir un rôle dans certaines législations sur le marché unique, pour l'établissement des fameuses normes dont on parle aujourd'hui. Donc il faudra vraiment être là, si on veut avoir une influence par rapport au Conseil, par rapport à la Commission, il y a un quorum, donc il faudra venir, il faudra étudier les textes. Donc si vous voulez, c'est une assemblée qui a été inventée et qu'on a élue directement avant qu'elle ait eu des pouvoirs significatifs. Ça explique peut-être le malentendu à son égard.
Et le malentendu, est-ce qu'il est aussi, Guillaume Sacris, de la part des États qui construisent l'Union européenne et qui, progressivement, d'année en année ou de décennie en décennie, sont de plus en plus nombreux? Est-ce que tous ces pays européens qui décident ainsi de s'unir ont la même conception de la démocratie parlementaire, un fonctionnement de leur parlement à peu près identique?
Alors non, et on est bien placé pour le savoir quand on est français, parce que s'il y a une constitution qui déroge à certains principes de base en matière de parlementarisme, c'est bien la constitution de la Ve République et le parlementarisme rationalisé, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire en fait un ensemble de contraintes juridiques qui permettent à l'exécution exécutif de soumettre en quelque sorte ce Parlement qui finalement ne devient qu'une sorte de chambre d'enregistrement par rapport à l'exécutif. Alors que, bien sûr, dans les grands pays de tradition parlementariste, en Allemagne, en Italie, en Espagne, mais en vérité dans la plupart des pays européens, le Parlement, c'est l'organe souverain en tant que représentant du peuple souverain. Et même si il s'agit, j'ai pas cité la Grande-Bretagne, pardon, parmi les pays bien sûr parlementaristes, mais donc c'est le Parlement qui est censé définir d'abord l'orientation du gouvernement et finalement le Parlement, le gouvernement émanant de la majorité du Parlement et définissant en son nom de la politique du pays. C'est pas du tout ce à quoi on assiste au sein de l'Union européenne. Comme on le sait, la Commission européenne est très largement indépendante du Parlement. C'est une chose qui est un peu étrange. Et de ce point de vue, on compare de temps à autre plutôt l'Union européenne à la Constitution américaine, avec un président des États-Unis en partie autonome, dans un régime présidentiel en partie autonome du Congrès.
Alors là, on voit, 1992, le traité de Maastricht qui fait du Parlement européen un co-législateur. Donc la Commission européenne propose des lois qui sont ensuite votées par le Conseil et par le Parlement. Donc dès lors, le Parlement est autorisé à rejeter un texte proposé par la Commission européenne. Déjà, tout simplement, est-ce que ça arrive souvent ?
Alors, effectivement, c'est important de le dire. Donc déjà, avec le marché unique en 86, le Parlement a acquis un pouvoir pour amender certains textes, mais c'était au cours d'une procédure assez complexe. Et c'est vraiment en 92 qu'il acquiert ce pouvoir de codécision dans certains domaines uniquement, hein, pas évidemment dans le domaine de la diplomatie ou des affaires militaires, ni même de la fiscalité d'ailleurs, ça je pense que Guillaume y reviendra peut-être.
Même si sur le régalien, là on va en parler, mais il est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, parce que sur la guerre en Ukraine et les livraisons d'armes, il se prononce assez régulièrement.
Il se prononce, enfin ça on en parlera peut-être après, mais bon, est-ce qu'effectivement il y a une européanisation ou est-ce que c'est pas les logiques nationales et otaniennes qui restent dominantes? Je pense que là le débat reste ouvert. En tout cas, voilà, ce Parlement effectivement à partir de 92 vraiment, il commence à devenir co-législateur, mais le problème, nouveau hiatus, premier hiatus, c'est le fait qu'on a créé le Parlement sans lui donner de pouvoir, et on l'a élu à partir de 79 alors qu'il avait peu de pouvoir. On lui en donne à partir de 92, mais en France, on en parle peu pour les raisons qu'a identifié Guillaume Sacriste. Juste un petit exemple, donc moi je suis historien, pour mon dernier livre, j'ai regardé les archives britanniques, essentiellement britanniques, allemandes et françaises. Bon, dans les archives françaises, on parle jamais du Parlement, hein. Dans les archives allemandes et britanniques, on en parle, y compris, moi j'ai regardé les archives de la période Thatcher, donc pourtant c'est un gouvernement fort. Bah, une grosse partie des archives Thatcher, c'est qu'est-ce que je vais dire au Parlement avant le Conseil européen, après le Conseil européen, pour justifier la politique britannique. En France, le Parlement européen ne discute pas la position française au Parlement, au Conseil européen. On a juste découvert depuis 2022, depuis que le président n'a pas de majorité absolue, de majorité claire, que le travail parlementaire a un rôle en démocratie.
Alors, si on reste à l'échelle européenne, est-ce qu'on peut au moins essayer d'évoquer les sujets sur lesquels le Parlement européen a été un véritable moteur, parce que les États pris indépendamment restaient inertes, ou parce que d'autres institutions européennes ne bougeaient pas? Je vous pose la question, Laurent Varlouzet, et puis ensuite Guillaume Sacriste essaiera de faire vous essayerez de le dire, vous êtes beaucoup plus sceptique sur le Parlement, mais Laurent Varlouzet, d'abord, sujets sur lesquels vous trouvez qu'il a vraiment joué un rôle.
Alors, historiquement, il y a quelques sujets. Il y a les droits de l'homme, par exemple. Dès les années 60, il y a eu un rapport qui s'appelait le rapport Birkelbach qui critiquait la volonté d'ouvrir des négociations d'association avec l'Espagne de Franco. Donc, le Parlement européen a toujours été pionnier en matière de droits de l'homme.
Alors que là, les États étaient... eux, ils étaient engoncés dans leurs relations bilatérales avec l'Espagne.
Oui, les États, de toute façon, certains considéraient que le problème restait ouvert. C'était vraiment un problème. Donc, il y a les droits de l'homme. Il y a l'environnement aussi. Là, il y a des travaux montré que notamment dans les années 90-2000, certaines entreprises voulaient éviter à tout prix de passer par le Parlement parce que ils étaient la préoccupation environnementale s'y reflétait de manière plus forte qu'avant. Alors ça va peut-être changer si en 2024 il y a une très forte poussée de la droite radicale et de l'extrême droite, on verra bien. Et puis le troisième domaine, c'est l'égalité homme-femme. Je dis pas que le Parlement est exemplaire, mais bon, il a élu on a eu deux présidents du Parlement européen femmes, Simone Veil et Nicole Fontaine, dès 79 pour Simone Veil, et puis Nicole Fontaine ensuite au début des années 2000, et il a fallu attendre de 2019 pour la Commission européenne, il a fallu attendre aussi nous pour avoir une première ministre femme, c'était Edith Cresson, c'était en 91 ou 92. Donc et il y a eu une commission aussi pour les droits des femmes qui s'est créée de manière autonome au début des années 80 alors qu'elle n'était pas prévue dans les textes et qui a choisi de faire pousser certains textes. Donc vous voyez, le Parlement européen s'est toujours trouvé un rôle un petit peu d'aiguillon démocratique sur certains sujets disons plus politiques. Plus que, j'ai l'impression, politique et environnementaux, plus que sur des sujets économiques et sociaux, j'ai l'impression.
Alors que vous, Guillaume Sacrist, vous attachez dans votre prochain livre à montrer dans quel cas, dans quels exemples le Parlement européen n'a été que faiblesse, et notamment pendant la crise du Covid, qui a emporté 500 000 Européens en tout, quel est pour vous le nœud du problème, entre guillemets? C'est quoi? C'est l'impossibilité de lever l'impôt? C'est les relations avec les autres institutions? Voilà. Quel est, d'après vous, le problème majeur du Parlement européen qui ne lui donne pas les pouvoirs auxquels il prétend?
Alors, il y a beaucoup de problèmes pour le Parlement européen. Mais le principal, effectivement, pour moi, c'est la question budgétaire. Un Parlement, en fait, historiquement, ça sert d'abord à légitimer la levée de l'impôt. En tout cas en Occident, disons, si on veut limiter un peu le champ, mais on peut revenir à 1215 et la Grande Charte et la création d'un premier Parlement. Je suis pas historien, c'est Laurent l'historien, mais j'ai fait un peu de droit constitutionnel. Donc ça sert à légitimer la levée de l'impôt. Le Parlement européen est incapable d'assumer cette tâche. Le budget de l'Union européenne aujourd'hui, c'est 1% du PIB, c'est-à-dire que ça n'est rien du tout à l'échelle du continent. Et cela depuis le début de la construction européenne. Or, on se rend compte aujourd'hui, et c'est à l'occasion de la crise Covid par exemple, mais demain pour financer une défense européenne face à ce nouveau monde dangereux qu'on nous dessine, il faudrait lever des impôts en masse au niveau européen. Et de ce point de vue-là, le Parlement européen en est complètement incapable parce que fondamentalement illégitime.
Illégitime parce que ne levant pas l'impôt.
Pas parce que ne levant pas l'impôt, n'étant pas légitime à lever l'impôt, parce que n'étant pas représentatif des sociétés européennes qu'il prétend représenter. Et notamment, vous avez ouvert cette émission avec la question des taux de participation particulièrement faibles, et particulièrement faibles par rapport à ce qui se passe dans les espaces politiques nationaux et dans les législatives nationales. Il y a en général 20 points d'écart entre la participation dans les espaces politiques, la participation dans les législatives nationales et par rapport à ce qui se passe au niveau européen.
Donc pas de possibilité de lever l'impôt, pas de légitimité à le faire. Un droit de regard en revanche sur le budget européen, mais même pour les plans de relance. Après la crise du Covid, le Parlement européen n'a pas été invité, le président du Parlement n'a pas été invité autour de la table par les présidents des autres institutions européennes. Laurent Varlouzet.
Oui, là je suis d'accord avec le constat de Guillaume. Un exemple justement, je citais Nicole Fontaine là au début des années 2000. Elle a été présidente du Parlement européen pendant plusieurs années avant de devenir ministre. Son bilan, c'est justement une activité dans les domaines que j'ai cités préalablement, qui sont justement pas des domaines de cœur de l'activité parlementaire comme le dit Guillaume Sacrist, qui sont effectivement le vote du budget, lever un impôt, la Grande Charte de 1215 qu'il a cité, le roi d'Angleterre militaire qui est obligé d'obtenir l'autorisation du Parlement pour avoir des ressources pour lever une armée. Donc ça, ce Parlement européen, finalement, a peu de pouvoir dans ces domaines classiques. Et si on regarde le bilan de Nicole Fontaine, c'est la Charte des droits fondamentaux, donc elle a fortement soutenu, c'est-à-dire donner à l'Union européenne des principes de droits de l'homme, d'état de droit à respecter. À l'époque, c'était le problème de l'accès de l'extrême droite au gouvernement en Autriche avec Jörg Haider. Deuxième grosse avancée, des normes environnementales après le naufrage de l'Erika, vous savez, qui avait souillé les côtes bretonnes. Et donc la France, et avec le soutien de Nicole Fontaine au Parlement européen, soutient l'adoption de législations environnementales beaucoup plus sévères en matière de contrôle des pétroliers. Et évidemment, on comprend bien qu'il faut le faire au niveau européen, parce que si on le fait qu'au niveau français, vu que les pétroliers ne rentrent pas forcément dans nos eaux territoriales, on n'a pas de prise sur eux. Et puis, troisième élément, elle invite le commandant Massoud, vous savez, afghan, au Parlement européen, à venir s'exprimer au Parlement européen, peu de temps avant qu'il soit assassiné. Vous savez, c'était juste avant le 11 septembre 2001, pour parler de la situation, notamment des femmes en Afghanistan. Donc, on voit bien ce rôle d'interpellation, d'aiguillon du Parlement européen qu'il a eu pendant longtemps, à défaut d'avoir les pouvoirs d'un Parlement européen classique, d'un Parlement classique qu'il commence à obtenir, mais pas complètement, comme le souligne bien Guillaume.
Alors Guillaume Sacrist, qui sont les véritables concurrents du Parlement européen? Est-ce que ce sont les autres institutions de l'Union ou est-ce que ce sont les 27 parlements nationaux?
Alors là, vous me titillez sur un point sensible, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais dire que quand même, ça pose un problème. Ça pose un problème pas seulement de démocratie pour la démocratie, finalement. Quoi. C'est pas seulement se dire « Ah ben finalement, l'Europe est pas très démocratique ». Le problème que ça pose, c'est un problème d'efficacité, in fine. Aujourd'hui, on a donc manifestement besoin d'argent, hein, un mur d'investissement public, disait le président de la République dans son second discours de la Sorbonne. Et cet argent, pour le moment, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pendant des sommets qui durent de 2 à 4 jours, qui en décident potentiellement à l'unanimité. Et comme on le sait, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir l'unanimité. Et donc, on assiste à des marchandages incroyables entre ces 27 chefs d'État et de gouvernement dont on ne connaît jamais l'issue. Finalement les résultats sont faibles parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais le plan Covid 750 milliards, c'est ridicule par rapport à ce que les États-Unis ou la Chine débloquent au même moment avec une rapidité sans commune mesure par rapport à ce qui se passe en Europe. On est à 1900 milliards de dollars aux États-Unis, on est en Europe, donc 750 milliards. Donc c'est à un moment une question d'efficacité. Et demain, là, on aura besoin d'argent pour une défense commune. On va devoir avoir l'unanimité entre chefs d'État et de gouvernement. Et on aura un Orban et un Fico qui vont nous dire, donc le chef du gouvernement hongrois et le chef du gouvernement slovaque, qui vont nous dire non, nous, on ne veut pas dépenser de l'argent pour construire une défense commune qui pourrait permettre de lutter contre la Russie, la Chine, voire les États-Unis, sait-on jamais, plus improbable. Et donc tout simplement, on aura des blocages. On aura des blocages. Et il faut trouver des solutions pour lever le verrou de la fiscalité commune et enfin pouvoir avoir une fiscalité européenne. Cette question de la fiscalité européenne, elle date et elle n'a pas bougé d'un millimètre depuis les années 50, le tout début de la construction européenne.
Même la crise de 2008 n'a rien changé à cette façon de voir les choses. Juste un tout petit mot, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie, avant d'entendre Alinor Ballonger sur la question de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Voilà, juste Guillaume Sacrist, vous plaidez pour une nouvelle forme de Parlement européen, enfin pas si nouvelle, parce qu'il s'agirait d'une assemblée bicamérale, comme dans toutes les démocraties. C'était une idée de Valéry Giscard d'Estaing, de Tony Blair aussi, c'est une idée qui a été mise en avant par des hommes et femmes politiques de tous bords, mais ça changerait quoi, en quelques mots?
Ça changerait qu'on associerait les parlements nationaux directement à la construction européenne, avec l'idée que ce sont les représentants du peuple, que ces peuples existent encore aujourd'hui dans la construction européenne, et que ce sont ces parlements parlements qui ont la légitimité pour lever l'impôt. Un véritable impôt européen, pour avoir un vrai budget européen, pour voter un impôt européen et pour financer les grands projets européens qui font l'avenir de l'Europe aujourd'hui.
Alors, je m'étais promis qu'on n'entendrait jamais parler de Taylor Swift dans cette émission, parce qu'elle a une tribune suffisamment large dans à peu près toutes les autres, partout sur toutes les radios. Mais il se trouve que la vice-présidente de la Commission européenne a lancé un appel à Taylor Swift, la grande chanteuse, enfin la chanteuse américaine, pour qu'elle incite les jeunes à voter en juin. On écoute un extrait de son dernier album. Fortnite, extrait du dernier album de Taylor Swift, la chanteuse américaine, quand elle lance un appel sur ses réseaux sociaux à aller voter. 35 000 jeunes dès le lendemain américains s'inscrivent sur les listes. L'Union européenne, elle a un autre atout pour appeler les jeunes, c'est la conférence pour l'avenir de l'Europe.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Our ideas have the power to change the world.
Nos idées ont le pouvoir de changer le monde.
In 2021,
en 2021, l'Union européenne a lancé la conférence sur l'avenir de l'Europe.
An ambitious and efficient solution.
Une solution ambitieuse et efficace qui permet à chacun d'être entendu par les décideurs européens.
It all started.
Tout a commencé sur un site interactif où chacun pouvait partager des idées et des propositions sur des enjeux majeurs.
And people spoke up.
Et les citoyens se sont exprimés en soumettant des milliers d'idées et de commentaires.
La conférence pour l'avenir de l'Europe, il y a 3 ans, 800 personnes tirées au sort sur le continent afin qu'elles s'expriment sur différents sujets dans l'idée de rapprocher les citoyens de leurs représentants, pour reprendre le langage de l'Europe. Cette consultation était censée donner des lignes directrices pour les grands thèmes de politique européenne. Comment les citoyens participants ont-ils perçu cette tentative de démocratie participative? Bonjour Aliénor Ballanger.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse post-doctorante en sciences politiques à l'Université d'Oxford. Vous avez écrit un long article de bilan de cette conférence pour le Centre d'études avancées Robert Schuman. À l'origine, qui avait exprimé ce désir d'une telle conférence pour l'avenir de l'Europe? Est-ce qu'il y avait une vraie demande des citoyens européens relayés par les eurodéputés, par exemple?
Alors, ce qui est important, c'est de remettre la conférence sur l'avenir de l'Europe dans un contexte historique qui est un peu plus large, en fait, qui remonte à ce qu'on a pu appeler le tournant citoyen de l'Union européenne, qui remonte au début des années 2000, dans le cadre des débats autour du projet de traité constitutionnel, et qui commence notamment avec un plan qui est rédigé par la Commission européenne, le plan D pour démocratie, dialogue et débat. Et qui va être mis entre parenthèses avec les nombreuses crises 2008-2010, crises économiques, financières. Et en fait, c'est surtout avec le Brexit. Donc, au début de votre émission, vous avez parlé de l'exil à Ventotene, et le manifeste de Ventotene, qui voyait dans la Seconde Guerre mondiale un momentum pour l'intégration continentale. Et en fait, l'événement du Brexit en 2016 va constituer un nouveau momentum pour repenser le rôle du peuple européen et le rôle du peuple et de la démocratie dans le processus d'intégration européenne, dans la mesure où le Brexit vient d'un référendum et donc d'une initiative de démocratie directe qui conduit à la sortie d'un grand État de l'Union européenne, il y a cette nécessité de repenser le rôle que le peuple peut avoir comme élément intégrateur, mais également comme élément de mise en danger de la construction européenne.
Mais est-ce que cette mise en danger est pensée, entre guillemets, en l'occurrence par Emmanuel Macron, qui fait cette proposition de débat participatif dans le sillage du grand débat en France, Ursula von der Leyen, qui à l'époque la présidente de la Commission européenne, est d'accord pour le faire? Quelle intention de départ ont-ils? J'imagine qu'il ne s'agit pas de dire on verra si les citoyens européens veulent que l'Union européenne implose.
Ah, bien sûr que non, mais il s'agit de repenser la place que les citoyens peuvent avoir dans le processus d'intégration. Et effectivement, dans le sillage du discours de la Sorbonne, donc le premier d'Emmanuel Macron en 2017, il y a l'idée que les dirigeants européens commencent à plaider pour un renouvellement des mécanismes de représentation avec pour objectif de réengager les citoyens dans la sphère publique. Objectif qui va être repris effectivement en 2019 par Ursula von der Leyen, qui plaide pour, je la cite, un nouvel élan pour la démocratie européenne et qui va donc concevoir ce grand projet de conférence sur l'avenir de l'Union européenne.
Avec 800 participants tirés au sort, combien ont accepté cette mission-là?
Alors, il y a un très faible, ça c'est un élément bien connu des chercheurs qui travaillent sur les mécanismes de démocratie participative, il y a un très faible seuil de personnes contactées qui vont accepter. Donc, en général, c'est entre 5 et 10%. Là, dans le cas de la conférence sur l'Union européenne, c'était un peu moins de 10% des citoyens citoyennes et citoyens qui ont été contactés, qui ont finalement accepté de faire partie de ces panels citoyens.
Il y avait des contraintes, il fallait se déplacer sur 3 week-ends, mais je crois que c'était rémunéré. En tout cas, vous avez rencontré des participants qui n'avaient pas été tirés au sort complètement au hasard, parce qu'ils s'étaient d'abord inscrits quelque part.
Oui,
sur une plateforme de panel client.
Oui, effectivement. Donc oui, le contexte est que ces citoyens devaient se déplacer, devait se déplacer virtuellement et géographiquement 3 fois, puisque le premier round de ces panels citoyens avait lieu tous à Strasbourg, au Parlement européen de Strasbourg, le deuxième online et le troisième dans une des villes fondatrices symboliques de l'Union européenne, Florence, Maastricht, Varsovie. Et effectivement, parmi ces citoyens qui ont été contactés, la plupart quand même l'ont été vraiment sur un processus de randomisation, mais certains s'étaient effectivement inscrits sur le site français, mais c'est que le cas pour la cohorte française, le site français MyConso, et effectivement avaient exprimé eux-mêmes leur désir de faire partie de cette expérimentation.
Donc on n'a pas malheureusement le temps d'expliquer en quoi, je renvoie à vos travaux, en quoi ce panel n'était pas nécessairement très représentatif des quelques 450 millions de citoyens européens. En tout cas, toutes les régions d'Europe étaient représentées, de même que la parité et l'âge, mais sur les aspects sociologiques, c'est difficile de savoir. Vous avez plutôt constaté une surreprésentation d'Européens diplômés. Maintenant, à quoi s'attendaient les participants et comment, pour eux, ça s'est passé? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'impression aujourd'hui d'avoir participé au choix des grandes orientations européennes?
De ce que j'ai pu constater au cours de mes entretiens, non. L'idée qui était assez vague dès le départ, c'était d'ouvrir un nouvel espace de débat avec les citoyens pour aborder les défis et les priorités de l'Europe. Mais pour beaucoup de citoyens que j'ai interviewés, il y avait l'idée que c'était surtout un mécanisme consultatif où on leur demandait en quelque sorte de donner des idées, de donner des visions, de rédiger par exemple sur un arbre des dessins sur ce que représentait l'Union européenne pour eux et ce que ça pouvait être dans 50 ans. Et avec l'idée qu'en fait, c'était un mécanisme presque marketing où on leur demandait effectivement d'exprimer leur expérience d'hommes et de femmes du quotidien, et une espèce d'expertise du quotidien, mais que ça ne serait suivi de quasiment rien.
A priori, le processus a écarté de fait les plus eurosceptiques, par ailleurs, qui n'ont en tout cas pas souhaité participer, qui n'ont sans doute pas participé à cet échantillon-là. Donc, en effet, il est difficile de se dire ce qu'a pu vraiment donner concrètement ce rendez-vous-là. Mais surtout, l'Europe, qu'est-ce qu'elle en a fait? Et est-ce qu'elle a lancé depuis de nouvelles initiatives de démocratie participative, peut-être aussi en les réajustant, en prenant en compte les éventuelles erreurs ou échecs?
Oui, alors après, je nuancerai quand même sur le premier point que vous avez abordé. Oui, c'est vrai qu'il y a eu peu de suivi. Ceci dit, il y a quand même un site que tout le monde peut consulter sur le Parlement européen de suivi des 49 propositions finales et d'environ 326 mesures que le Parlement européen a émises en se basant sur ces initiatives européennes. Et effectivement, il y a actuellement une deuxième génération de panels citoyens européens qui sont plus resserrés, donc qui ont pris la mesure de cette limite due à la consultation et qui sont resserrés sur le gaspillage alimentaire, sur le métaverse, sur actuellement comment répondre à la montée des discours haineux et des contenus haineux en ligne. Et qui permet donc de participer en quelque sorte au policy making de l'Union européenne, mais de manière potentiellement rétroactive par rapport à des policies qui seraient déjà discutées entre la Commission, le Conseil, et qui seraient donc proposées à consultation à un panel représentatif de citoyens européens, mais avec une capacité très limitée de mise à l'agenda de nouveaux thèmes qui seraient centraux dans la vie des citoyennes et des citoyens européens.
Merci beaucoup Alinor Ballanger, chercheuse postdoctorante en sciences politiques à l'Université d'Oxford. Nous mettrons en lien sur le site de Culture Monde le travail que vous avez fait de bilan de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Un mot, Guillaume Sacris, Laurent Varlouzet, sur ces efforts qui sont faits par le Parlement européen et l'Union européenne pour intéresser les électeurs et les Européens, tout simplement, les citoyens. Vous relevez par exemple, Guillaume Sacris, dans votre livre, que au niveau médiatique, on fait tout aujourd'hui pour montrer qu'une élection européenne, c'est comme n'importe quelle élection nationale. Il y a des débats, des plateaux télé avec des présentateurs, des commentateurs. Bon, est-ce que tout ça peut contribuer, malgré les maladresses ici et là, à renforcer la légitimité de l'Union européenne?
Question un peu pour terminer. Ben on va le voir. D'abord, on va voir. Il y a une chose qu'on attend, me semble-t-il, impatiemment, c'est le taux de participation lors de ces prochaines élections. Finalement, hein, c'est quand même ça qui fait la légitimité d'un parlement. Donc, est-ce que le fait que beaucoup de sujets européens sont devenus extrêmement saillants dans ces dernières années, à commencer par le Covid ou la guerre, fera se déplacer davantage d'électeurs européens.
Laurent Varlouzet.
Oui, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut aller voter le 9 juin. Aujourd'hui, en fait, dans la note qu'on a rédigée avec un collectif de chercheurs qui s'appelle Eurolab, si vous tapez Eurolab, Parlement européen, on a fait une note bilan, et on montre bien que le Parlement européen a une importance très forte, qu'il y a beaucoup de débats politiques. Là, il y a eu beaucoup de contestations de la législation environnementale, par exemple, dernièrement. Donc, si vous voulez plus ou moins d'Europe sociale, plus ou moins d'Europe environnementale, plus ou moins d'Europe puissance, votez le 9 juin, vous avez le choix, faites votre marché.
Merci beaucoup, Laurent Varlouzet, Guillaume Sacrist, d'avoir été avec nous. Toutes les références de votre livre seront sur le site de Culture Monde à l'émission du jour. En deux mots, Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance pour vous. Laurent Varlouzet, paru aux éditions du CNRS, entre autres, et Guillaume Sacrist, apparaît dans les prochains jours. Le Parlement européen contre la démocratie, c'est une question parue aux presses de Sciences Po, qui va paraître aux presses de Sciences Po. C'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et ce matin, Catherine, vous nous emmenez en Asie centrale, en Ouzbékistan. Le pays se bat pour sauver ses cultures de blé et de coton contre un ennemi mortel.
Il s'agit du sel. Et ce problème agricole est lourd de conséquences pour d'autres pays d'Asie à l'heure du dérèglement climatique. Par un après-midi de printemps, anormalement doux d'ailleurs, Dior Jouraïev, un agriculteur ouzbek, a rassemblé un groupe de cultivateurs inquiets dans un champ de blé tout près de Karchi, dans le sud du pays. Ces ouzbeks, nous explique le quotidien économique Nikkei Asia, sont venus chercher des réponses existentielles auprès d'une délégation de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'agriculture pour savoir donc comment lutter contre les dépôts de sel dans leurs champs. Ils augmentent fortement après certes des décennies de mauvaise gestion de l'eau depuis l'ère soviétique dans un Ouzbékistan enclavé, rappelle Nikkei Asia. Mais la pénurie d'eau est aujourd'hui aggravée par le réchauffement climatique. Les sources d'eau douce s'amenuisent pour évacuer le sel du sol, ce qui oblige les cultivateurs à réutiliser l'eau de drainage de l'irrigation riche en sel. Un cercle vicieux donc qui nuit aux cultures de blé et de coton très gourmandes en eau, avec un recours massif aussi aux pesticides, note le journal en ligne Ouzbek Gazeta et le portail d'information ouzbek Dario. La salinité des sols fait baisser de 15 à 20% les récoltes, rapporte Nikkei Asia, et c'est un énorme problème financier, non seulement pour l'Ouzbékistan et ses 37 millions d'habitants, l'agriculture représente près d'un tiers de l'économie ouzbek, mais aussi pour le Bangladesh, premier producteur mondial de vêtements, rappelle Nikkei Asia. Le pays importait près de 40% de la production de coton ouzbek pour 50 millions de dollars en 2017. Depuis, ses importations de coton ouzbek ont été divisées par 5.
Et autre conséquence de la salinité des sols sur la récolte du blé cette fois.
L'Ouzbékistan va devoir baisser ses exportations de blé vers son voisin du sud, l'Afghanistan, pays tenaillé par la faim depuis le retour des talibans au pouvoir et la baisse des aides internationales, précise Nikkei Asia. De son côté, Cotton Campaign, qui regroupe des syndicats et des ONG pour lutter contre le travail forcé des adultes et des enfants dans les champs de coton en Asie centrale, appelle à cesser le harcèlement des activistes qui tentent de moderniser, sur le plan agricole et social, la culture du coton en Ouzbékistan. Rapporte le magazine The Diplomat, spécialiste de l'Asie. Alors même si on est loin du million d'adultes et d'enfants contraints de ramasser le coton sous le régime d'Islam Karimov, son ancien premier ministre, Shavkat Mirziyoyev, devenu président aujourd'hui, construit une image de réformateur. Mais des travailleurs sont toujours en relais de force dans les champs par des chefs d'administration locales. Les cueilleurs de coton se font rares, selon un autre article du magazine The Diplomat. De nombreux travailleurs migrants qui étaient rentrés en Ouzbékistan pendant la pandémie, sont repartis depuis pour gagner plus d'argent à l'étranger. Des Ouzbeks ramassent ainsi des fraises près de Manchester, en Angleterre, rapporte le journal ouzbek Gazeta. Le Royaume-Uni recourt de plus en plus à des saisonniers d'Asie centrale depuis le Brexit et le début de la guerre en Ukraine, souligne The Economist. Plus assez de main-d'œuvre européenne et le gouvernement ouzbek demande lui à sa population d'éviter de se rendre en Russie pour chercher du travail, relève le portail d'information Eurasianet. Vague d'agression contre les migrants d'Asie centrale. Nous en avions parlé ici même depuis l'attentat de mars près de Moscou, imputé à des Tadjiks.
Pour terminer, Catherine, vous nous emmenez en Pologne, qui craint l'espionnage et l'ingérence russe.
Depuis qu'elle est devenue une plaque tournante pour l'aide militaire internationale et humanitaire à l'Ukraine après l'invasion russe de 2022, rappelle l'agence de presse polonaise PAP. Dernière alerte hier, lors d'un conseil des ministres délocalisé de Varsovie à Katowice, dans le sud-ouest de la Pologne, où le premier ministre Donald Tusk participait à une conférence économique, des dispositifs d'écoute ont été retrouvés dans la salle où les ministres devaient se réunir, indique le quotidien polonais Gazeta Wyborcza et la BBC. Les services de sécurité ont bien réagi, suivant la procédure standard, a déclaré leur porte-parole, Jacek Dobrinski, sur la chaîne polonaise TVN24. Le service de protection de l'État, le contre-espionnage, ont estimé que les dispositifs retrouvés auraient pu être utilisés pour enregistrer ou écouter l'audio et la vidéo de cette réunion. On cherche maintenant à savoir qui les a installés et surtout pourquoi. Ces appareils faisaient peut-être partie de l'ancien système de communication de la salle qui n'était plus opérationnel, note le Washington Post. Mais mieux vaut rester sur ses gardes, selon Grégor Chelsak du Centre de recherche des risques sociaux et économiques au sein du collège Kiwitas, interrogé par l'agence de presse officielle polonaise PAP. Il estime que la Pologne, frontalière de l'Ukraine et membre de l'OTAN, est prise dans une guerre hybride depuis 2014, avec la Russie comme ennemi et pays agresseur. Au-delà de l'Ukraine donc, Moscou cherche à sa paix a miné l'ensemble de l'Union européenne et de l'Occident, précise cet expert à l'agence PAP. Cette crainte de gouvernement surécoute est en tout cas survenue alors que le parquet polonais a annoncé avoir ouvert une enquête pour espionnage, après qu'un juge proche de l'ancien gouvernement populiste a demandé l'asile politique à la Biélorussie, alliée de Moscou, relève la BBC. Donald Tusk convoque aujourd'hui une réunion avec les services secrets pour discuter de l'influence de la Russie et de la Biélorussie sur la politique polonaise ces dernières années.
Merci Catherine Dutu.